Leader et Manager, une émission d'information et de formation.
Voilà, leader et manager, notre émission de chaque jeudi. Nous sommes en direct et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet crucial pour le développement de notre pays, l'industrie congolaise. 65 ans après l'indépendance, rétrospective et perspective. Monsieur Simon Bosso, c'est le permanent de cette émission avec nous au studio. Bonjour.
Bonjour Bob, bonjour à nos auditeurs, auditrices et internautes.
Vous allez bien?
Bien, merci, avec les embouteillages.
Ah, là, c'est maintenant notre ami de tous les temps. Alors, l'industrie congolaise, 65 ans après l'indépendance.
Voilà, j'ai le plaisir de présenter ce sujet. Je suis passé 3 ans au ministère de l'Industrie. Donc, nous allons, dans le cadre de notre série d'émissions sur les 65 ans d'indépendance de notre pays, nous faisons la rétrospective et les perspectives des différents secteurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie. L'industrie, c'est le secteur, c'est un secteur clé parce que c'est le secteur de la transformation, c'est le secteur de la valeur ajoutée. Nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des mines. Et pour passer du stade primaire au stade secondaire, il faut industrialiser le pays, un pays émergent. Un pays développé, c'est un pays qui est industrialisé. Nous allons donc voir comment notre pays a évolué depuis, même avant l'indépendance, pour voir que depuis pratiquement 5 décennies, près de 50 ans, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle de désindustrialisation. Donc le pays se désindustrialise. Et plusieurs unités industrielles que le pays comptait au moment de l'indépendance ont fermé. Et que les quelques entreprises industrielles qui survivent encore tournent en général en dessous de leur capacité installée de production. D'aucuns pourraient en douter et en tête certains tonnages ou mètres cubes qu'on peut encore trouver dans tel ou tel secteur. Mais à y regarder de près, surtout nous allons parler de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire de l'industrie de transformation, nous allons voir que la plupart de ces productions ressemblent peu ou prou aux productions atteintes par ces branches en 1957. C'est ainsi qu'il convient de jeter un regard sur le passé, la rétrospective, et afin de pouvoir apprécier la situation actuelle de notre secteur industriel. Quand nous allons donc nous pencher sur l'histoire de l'industrialisation de notre pays, en simplifiant, nous pouvons retenir une première période couvrant les années des premières implantations industrielles qui se situent entre 1906 et 1928, période au cours de laquelle se sont créées des unités d'industrie alimentaire avec le traitement d'huile de palme, des premières brasseries que nous connaissons encore aujourd'hui, et sucrerie. Nous avons connu au cours de cette période l'implantation des industries textiles avec la filature et le tissage sur place du coton congolais. Ensuite, ce sont des industries chimiques avec les premières savonneries et enfin les industries de matériaux de construction avec les premières cimenteries qui se sont installées dans le Congo central. Vient ensuite la période de forte expansion de notre secteur industriel. C'est entre 1937 et 1957, jusque donc à la veille de l'indépendance. Au cours de cette période, nous aurons la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945. Et là, notre industrie va avoir un élan tiré par notamment les commandes de l'armement avec notre colonisateur qui était à l'époque occupé par l'Allemagne, beaucoup de productions vont être installées ici dans notre pays. Et cette période est caractérisée par la multiplication de nombre d'unités industrielles, par la diversification des entreprises industrielles, enfin par l'augmentation considérable des capacités de production et de la production elle-même. Ainsi, l'éventail d'unités industrielles comprendra alors des unités de traitement des produits miniers, avec la métallurgie et la fonderie, des unités de traitement des produits agricoles avec des entreprises de traitement du café, du cacao, du caoutchouc, du tabac, des minoteries, des riseries et des usines à thé. Des industries mécaniques, avec des ateliers de production d'outillage mécanique, des menuiseries métalliques, des unités de montage et de réparation des vélos. Des industries de matériaux de construction avec, outre les cimenteries, des entreprises forestières, des entreprises de production de la peinture, des tuileries et des céramiques. Des industries textiles, comprenant les entreprises de production d'articles de bonneterie et de confection. Des entreprises de production de chaussures et de cordonneries, connaissant le célèbre Bata. Des industries chimiques, outre les savonneries, produisant des produits chimiques industriels utiles au secteur minier, donc, comme l'oxyde, l'acide sulfurique ou l'acétylène, ou encore des produits pharmaceutiques. Des industries alimentaires comprenant, outre les brasseries qui étaient déjà implantées, des boulangeries. Nous allons connaître des grandes boulangeries à l'époque. On a parlé de Papa Dimitri, des Covadis. Il y aura des pâtisseries, des unités de torréfaction du café, des productions, des préparations de poissons et de viande, ou encore de la glace artificielle. Enfin, les industries diverses, telles que les imprimeries. Encore avoir nos premières imprimeries à l'époque, les fabriques de tapis, les unités de production de parfums, de la poudre, des blanchisseries, des horlogeries et des teintures. Pour avoir une idée sur l'augmentation considérable de production durant cette période, le numéro de janvier 1959 du bulletin de la Banque centrale du Congo belge et du Rwanda au Burundi mentionne que l'indice du volume de production progresse de 1200% entre 1939 et 1957, avec de fortes pointes pour les industries des matériaux de construction en progression de 2489%. Par exemple, la production de ciment passe de 35 126 tonnes en 1939 à 463 952 tonnes en 1957. Et nous nous retrouvions encore autour de cette production autour des années 2007, avant la création des dernières sociétés de production de ciment. Donc, ça c'était la deuxième période. Alors, la troisième période à épingler concerne celle de 1960 pratiquement à 1991 ou 1991. C'est de l'indépendance jusqu'en 1991 qui peut être caractérisée comme une période de moindre expansion industrielle et même d'effritement du tissu industriel congolais, suite principalement à la perte de compétitivité de l'industrie congolaise, opérant de plus en plus sous le parapluie des mesures protectionnistes, à l'impact négatif des mesures des aryanisations et de radicalisation de 1973 et 1974. C'est la période où le régime du président Mobutu avait nationalisé les entreprises étrangères et même les entreprises des Congolais en 1974. À la réalisation des projets industriels à rentabilité précaire ou douteuse, à l'exemple de la sidérurgie de Maluku, de la ferme Blanterie de Lancélé ou du combinat agro-industriel de Guémena. La quatrième période est celle qui démarre avec les pillages de 1991-1993. Vous vous souviendrez qu'en 1991 et en 1993, on a connu deux pillages qui ont précipité vraiment la destruction du tissu industriel congolais. Les Congolais, aussi bien les populations civiles comme les militaires, ont attaqué, pillé les différentes usines, industries, grands magasins dans la ville de Kinshasa et même dans certaines villes de l'intérieur. Et la dégradation du cadre macroéconomique qui s'en suivra, autant que les différents conflits armés récurrents depuis 1996, ont entraîné le secteur industriel congolais, au regard de ses performances des années 37 à 57, dans un cycle de désindustrialisation dont nous continuons encore à sentir les effets jusqu'à nos jours. Si nous prenons quelques données, la contribution du secteur de l'industrie au taux de croissance de l'économie entre 50 et 57 et se situe en moyenne annuelle entre 20 et 25%. Cette contribution est descendue dans les années 2007-2010 autour de 5%, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais dépassé 10%. Elle tourne entre 7-8%. Et le rétrécissement du tissu industriel, les pays qui comptaient quelques 9 600 entreprises, on peut arranger à 10 000 entreprises en 1950, comptent aujourd'hui à peine une centaine, qui alignent des contre-performances du fait de l'alimentation intermittente en énergie électrique. Les déficits en énergie électrique posent beaucoup de problèmes. L'industrie fonctionne essentiellement sur base d'énergie électrique. Et donc, c'est un problème. La forte concurrence des produits importés, souvent en fraude, ou à des prix relevant du dumping, voire même de la contrefaçon. Aujourd'hui, quand vous entrez dans les supermarchés, dans nos villes, vous trouvez 90%, si pas plus, des produits que nous achetons, ce sont des produits importés, qui viennent généralement aujourd'hui d'Asie, des pays asiatiques, et qui coûtent moins cher que les produits locaux. D'ailleurs, dans les années 2007, quand j'arrivais au ministère de l'Industrie, les 3-4 sociétés textiles qu'on avait dans le pays venaient de décider de fermer leurs usines. Il y avait la CPA, il y avait Saint-Esquine à Lubumbashi, il y avait Utex Africa et CPA ici à Kinshasa. Il y a la Soteski qui est restée en train de vivoter elle survit plus qu'elle ne vit, parce que comme c'est une société de l'État, on lui passe de temps en temps des commandes, mais elle n'est pas du tout rentable et compétitive. Les wax produits par Soteski reviennent à 20-25 dollars, pendant que les wax qui viennent de Chine coûtent 5-6 dollars et la pièce, et c'est une concurrence intenable. Il y a aussi notamment la fiscalité, les détails, la parafiscalité, qui sont considérées comme démotivantes. La taxation est, pour le secteur industriel de leurs produits, impacte aussi sur leur prix. Il y a la dépendance vis-à-vis des sources d'approvisionnement extérieures en intrants, qui aussi est grévée des taxes à l'importation. Donc beaucoup de nos industries tournent avec des matières premières qui sont importées. C'est le cas notamment des brasseries, même d'une partie pour les cimenteries et autres. Et il y a aussi le faible pouvoir d'achat de la population qui s'adresse naturellement à des produits de seconde main. Vous voyez, les bilocos sont généralement aujourd'hui préférés aux produits fabriqués localement, notamment parce que aujourd'hui, vous allez acheter une jean ou des habits, des costumes dans les bilocos, donc dans ce qu'on appelle ici à Kinshasa les tombola boaka, à des prix dérisoires par rapport aux produits neufs fabriqués par l'industrie locale. Donc, en comparant quelques chiffres de production dans certaines branches industrielles, nous allons voir qu'en 1957, par exemple, les pays produisaient presque 330 mètres cubes de bois scié. En 69, il n'en produisait plus que 124 000, un peu moins de la moitié. En 2006, ce chiffre était tombé jusqu'à 25 000 mètres cubes, donc moins de 10% de la production de 57. Les pays produisaient en 57 464 000 tonnes de ciment. Je le disais tout à l'heure, ce chiffre était tombé, était encore le même à peu près en 2007. Et était tombé à 323 000 tonnes en 69. Heureusement, nous avons connu, en tout cas sur la période de 2007 à 2015, des investissements de nouvelles cimenteries, notamment trois cimenteries dans les Congo central, PPC Barnett, Simco, le développement de la Sidou. Aujourd'hui, nous produisons presque 3 900 000 tonnes. Donc, les volumes des importations de ciment a fortement baissé, mais nos prix sont encore quelque peu supérieurs au prix de produits importés, et nous avons dû interdire l'importation de ciment, notamment d'Angola, pour ne pas tuer notre industrie locale. Donc, là, nous voyons que nous venons d'un pays qui était un des pays les plus industrialisés d'Afrique noire. En tout cas, nous étions en tête comme pays les plus industrialisés d'Afrique noire, avec une production industrielle fortement diversifiée. Et nous sommes maintenant tombés suffisamment assez bas. Notre production industrielle a baissé en termes de quantité, en termes de diversification. Nous avions une industrie automobile qui faisait le montage des véhicules, les General Motors ici à Massina. Nous fabriquions des batteries, on fabriquait des motos aussi, des motos, des Vespa. Et tout après les pillages, il y avait aussi Goodyear qui fabriquait les pneus. Toutes ces industries ont disparu. Donc aujourd'hui, nous avons pour faire de ces pays un pays développé, un pays émergent, nous devons le réindustrialiser. Et nous avons là, comme priorité, nous devons restaurer la compétitivité de l'industrie existante. Nous devons favoriser la diversification industrielle. On doit diversifier la production, notamment dans les secteurs miniers, où nous devons aller plus haut dans les chaînes de valeur. Au lieu de continuer à produire la matière première, le cuivre brut, le cobalt brut, le coltan brut, commencer à monter dans la chaîne de valeur pour commencer à produire notamment des câbles électriques, pourquoi pas des téléphones ou des batteries. Bon, ce sont des projets qui ont été lancés. Nous avons lancé en 2008 la stratégie de développement industriel. Nous avons créé les zones économiques spéciales. Nous avons suivi une émission ici avec les directeurs de ces zones, Guy Bolanda, qui permettent d'attirer les investisseurs en créant des conditions qui permettent l'accès facile aux fonciers et à l'électricité, la facilité de création des entreprises pour que nous puissions améliorer, attirer plus d'investisseurs dans le secteur industriel, réduire tous les obstacles qui freinent la création des industries, notamment en donnant priorité à des industries, l'industrie agroalimentaire, parce que nous devons encourager le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture. L'agriculture emploie près de 70% de notre population. Et en valorisant la production agricole, en améliorant, en transformant nous-mêmes, nous importons des jus, nous importons même des cure-dents. J'ai toujours dénoncé dans un pays où nous avons, avec des bambous, nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Nous importons des jus de l'Afrique du Sud, qui est un pays quasi désertique, alors que nous avons des fruits à toutes les saisons. Nous avons nous importons beaucoup de textiles aujourd'hui. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais il nous manque, nous n'avons pas suffisamment d'électricité, nous avons des problèmes de connectivité, des routes pour pouvoir connecter le monde rural au monde urbain où se trouvent les industries, et nous avons besoin des technologies appropriées pour pouvoir transformer tous nos produits là, et inciter ceux qui investissent notamment dans les mines à transformer ces minerais au lieu de les exporter bruts comme Dieu les a créés. Voilà, à titre d'exposé introductif, ce que nous avons voulu partager avec vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, et nous allons vous laisser la parole pour la partie interactive.
Merci à vous, Monsieur Simon Bosso. Nous sommes en direct à mes auditeurs pour les comptes de cette émission Leader et Manager. Monsieur Simon vient de nous proposer la matière. Et là, nous rentrons de l'autre côté de la technique avant la poursuite ou la partie interactive.
Justice, du temps en sol, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons. Nous gagnerons tous un monde sans injustice. Luttons ensemble nous bâtirons la vie sans préjudice à celui qui déploie l'effort, donnant un juste revenu. Le vendiquer, ce n'est pas un tort. Lorsque l'homme s'est bien tenu, le travail nous libérera, la justice se brisera. Le travail nous libérera, la justice se brisera. Travaillons, nous gagnerons tous un monde sans injustice. Luttons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tous un monde sans injustice. Luttons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Quel que soit le lieu, le sol, la vie chasseur les vauriens, même au fond des géants, nous ferons triompher le bien. Travaillons, nous vaincrons le temps, de lequel nous serons contents. Travaillons, nous vaincrons le temps, de lequel nous serons contents. Travaillons, nous gagnerons tous un monde sans injustice. Luttons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tous un monde sans injustice. Luttons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Pour la vie, prenons l'outil qui chasse la paresse. Oublions chagrin et soucis, et quand nous la vie remesse, travaillons au même maçon, du cadre au maçon. Travaillons au même maçon, du cadre au maçon. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Habitons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Habitons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. L'univers des tricheurs sera un jour découvert. La vérité vaincra les menteurs, ceux qui voient la vie de travers. Travaillons pour nos enfants, nous serons des bons parents. Travaillons pour nos enfants, nous serons des bons parents.
Voilà, nous sommes des retours 081-99-66-098. C'est notre numéro des messages. Appelez-nous, contactez-nous à ces numéros. Nous allons vous accorder la parole. 081-99-66-098. C'est les numéros des messages. Nous parlons de l'industrie de notre pays. 65 ans après, M. Simon est avec nous au studio. Avec vos questions, il va répondre, à vous donner la réponse ou les réponses à ces questions. Nous prenons la première réaction. Nous allons écouter cette réaction. 081-99-66-098. Première réaction.
Bonjour frère Simon, bonjour Bob. je voulais dire merci et surtout félicitations à Frère Simon pour une brillante présentation de l'évolution de l'industrie congolaise. Vous avez parcouru le temps. J'aurais aimé, dans une autre émission, qu'on insiste sur le principal agent de production qui est l'homme. Depuis les années de début de colonisation jusqu'à ce jour, au niveau de la formation professionnelle, la formation scolaire, formation académique, et quels sont les choix qui ont été opérés par ceux qui ont assuré le succès de 1908 à 1957-59 et la période après l'indépendance, le trouble, la période des zaïrisations et même notre période. Aujourd'hui, on produit beaucoup de diplômes, beaucoup de docteurs, beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup. Mais quel est le rapport dans le tissu industriel? C'est Papa Hyacinthe.
Voilà, Papa Hyacinthe.
Merci beaucoup, mon frère Hyacinthe, pour votre intervention que je considère plus comme une contribution. L'homme, c'est un facteur essentiel, c'est pas pour éminent dans le développement, dans tous les développements d'un pays. Et effectivement, dans les domaines industriels, nous avons un problème aussi de la qualité de la main-d'œuvre. Pour monter dans les chaînes de valeur, pour produire des produits de plus en plus affinés, pour produire aujourd'hui des appareils électroniques, que ce soit des appareils de téléphone, si on peut produire des véhicules sur place. Quand on a vu comment la Chine s'est développée, la Chine qui, dans les années, là, je suis allé un peu la première fois en Chine en 1979, il y a les gens circulaient presque tous à vélo, et vu qu'ils étaient en train à ce moment-là de développer, commencer à développer l'industrie automobile, en copiant les véhicules fabriqués par les Européens, les Japonais, les Américains, il fallait avoir des hommes. Et ils avaient envoyé beaucoup d'étudiants, les Chinois jusqu'à aujourd'hui, ils envoient beaucoup d'étudiants en Amérique, en Europe, aller étudier dans les grandes universités, dans les grands instituts de technologie, pour aller acquérir, parce que j'ai parlé des problèmes de la maîtrise des technologies pour développer l'industrie. Il faut maîtriser les technologies, les savoir-faire, et ça, c'est comme vous dites, c'est très important. Nous connaissons un déficit de techniciens, même dans le secteur des transports, que mon frère Hyacinthe maîtrise. Quand on voit dans les ports, quand on voit dans les grosses entreprises comme la SNEL, la Régie des Eaux, vous voyez les corps des métiers, les industries comme la Gécamines utilisait énormément d'ingénieurs, comme l'ONATRA. Non seulement nous avons un déficit, mais même ce qu'on produit aujourd'hui, il y a un problème de qualité. Un problème de qualité. Qualité, moi-même, et je suis enseignant, chercheur aussi. Quand nous voyons la qualité aujourd'hui des enfants qui arrivent dans les universités, déjà, la base est déjà très faible. Et au niveau technique, le déficit est encore beaucoup plus grand. Et donc là, effectivement, il faut... La politique industrielle ne peut pas se faire de manière autonome de la formation professionnelle, notamment. Et j'ai vu en France, par exemple, je suis allé avec Manuel Valls quand il était maire, je crois que c'est une des communes où il y a le plus de Congolais en France, visiter. Il avait créé ce qu'ils appellent une faculté de métier où on forme des jeunes à dépanner des ascenseurs, des ordinateurs, à monter des frigos. C'est vraiment, ils appellent ça faculté des métiers pour les décomplexer par rapport aux universités. Et je crois que là, c'est dans la stratégie de développement industriel que nous avions produit et qui a été développé par mes successeurs, la formation professionnelle, la formation technique est un des éléments clés. et la relation, la collaboration entre l'industrie et les universités dans beaucoup de pays avancés, cette collaboration est très très développée, très très pointue pour permettre justement au savoir et au savoir-faire de pouvoir se connecter et s'interchanger. Merci beaucoup à notre frère Yansent pour votre contribution.
Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les questions des auditeurs. Nous rappelons, nous sommes en direct. L'industrie en République 65 ans. Après, nous parlons de notre industrie. Nous prenons ces messages. Bonjour Monsieur Simon Bosso, bonjour Monsieur Bob. Merci Monsieur Simon pour l'émission. Existe-t-il une politique industrielle nationale claire et cohérente? Est-elle appliquée aussi? C'est ça ma préoccupation. La deuxième, qu'est-ce qui a été accompli ces 10 dernières années en matière de développement industriel? C'est Maman Georgette depuis la paroisse Saint-Alphonse.
Merci beaucoup Maman Georgette depuis Saint-Alphonse. Pour votre intervention très pertinente, maman. La politique industrielle, sur papier, elle existe. Elle existe même sous la période où j'étais à la tête du ministère. Nous avions produit un document, ce que j'appelle la DEPSI, les documents de stratégie des politiques industrielles, qui définissaient les priorités du développement industriel. Pour nous, la première priorité, c'est l'agro-industrie. Comme je le disais, tout gouvernement responsable pour première mission, c'est de nourrir son peuple. Donc nous devions développer l'agriculture, la transformation de nos produits agricoles pour que nous puissions mieux les conserver, mieux les présenter et mieux les vendre comme des produits manufacturés, ou dire que ça reste au niveau naturel. Le deuxième, ce sont les secteurs des mines et de la métallurgie. Nous sommes un scandale géologique, comme on nous appelle, mais nous restons comme producteurs de matières brutes. Aujourd'hui, il y a un effort. On a commencé à faire des petites transformations. Mais déjà, à l'époque coloniale, on avait déjà la fonderie, on avait des câbleries à la Jacamine, qui toutes étaient tombées à faillite. Et maintenant, on est en train de refaire. Il y a des efforts donc là, dans ces domaines-là qui sont encouragés par l'État à transformer progressivement nos minéraux, parce que quand nous vendons du cuivre brut et nous importons des câbles électriques produits à partir du cuivre, ces câbles-là nous coûtent 10 fois plus cher. Nous produisons du zinc que nous vendons de manière brute. Nous importons des tuyaux en zinc qui étaient utilisés par la Régie des eaux pour fournir de l'eau, qui coûtent peut-être cinq fois plus cher. Et nous produisons du bois brut. Moi, quand je vois des grumes passer ici sur la route vers le Congo central, ça me fait toujours mal au cœur. Mais nous importons des meubles. Et j'ai rencontré à l'époque les industriels du bois français pour leur proposer d'acheter du bois scié chez nous au lieu d'acheter des grumes. Et ils étaient en principe d'accord, mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous, ça nous coûte plus cher de sécher les bois ici, de les découper ici. Ça nous coûterait moins cher si on les faisait chez vous, mais ça demande un personnel, des ouvriers très qualifiés. Et ils ont ce qu'ils appellent des CPA, bien que ce soit des pays industriels, mais ils ont des centres, des CFA, des centres de formation des apprentis, pour couper les bois dans les normes. Parce que pour que les bois soient exportés, achetés en Europe, ça doit respecter les normes européennes. Aujourd'hui, la guerre commerciale ne se fait plus au niveau des taxes seulement, ça se fait surtout au niveau des normes. Si vous ne pouvez pas respecter les normes, vos produits ne pourront pas être acceptés sur les marchés donnés. Donc nous devons, comme disait le frère Yansente, la formation, surtout la formation technique, plus que la formation académique, est vraiment nécessaire, professionnelle et technique est nécessaire. Il y a troisième priorité que nous avions retenue, ce sont les matériaux de construction. Vous voyez, ici à Kinshasa, on construit beaucoup. Donc, les ciments, à un moment donné, le ciment manquait. Aujourd'hui, nous avons du ciment. Nous n'avons plus de pénurie de ciment. Nous avons le bois. Nous avons maintenant des clous. On a des barres de fer. Hein. Sous mon époque, nous avons inauguré. Nous avions interdit l'exportation des mitrailles. Et avec nos mitrailles, on a encouragé la création des industries de production des barres de fer. notre frère Lédia a inauguré, on a inauguré avec lui son industrie, je crois, la 16e rue de production de barres de fer. Il y avait d'autres usines, notamment Lubumbashi, deux ou trois. Et avec ça, on met en valeur les matériaux de production localement pour... mais il y a des usines aussi qui produisent des carreaux. Aujourd'hui, dans la zone économique spéciale que nous avions lancée à Maloku, on produit des carreaux là-bas sur place au lieu d'importer seulement des carreaux. Donc, là, je réponds en même temps à votre deuxième question, c'est ce qui a été fait les 10 dernières années. Avec cette politique-là qui a mis en place ces trois priorités d'abord, auxquelles on a ajouté les emballages, parce que pour les produits agricoles, pour vendre des produits agricoles transformés, il faut avoir des emballages appropriés. On fait beaucoup d'exportations informelles. Toutes les mamans, les gens qui vont en Europe, qui amènent du pondou, amènent du poisson. Mais si on peut mieux organiser ces filières-là, nous avions un incubateur à l'Université Congo avec le professeur Val Massamba. On a commencé à sécher du pondou. Je suis allé avec le pondou séché à Paris. Même les douaniers étaient contents. Ils ont dit, voilà, quand vous venez avec ça comme ça, bien séché, bien emballé dans des sachets en plastique, or, quand ça vient... sous forme de frais glacés, quand ça arrive après les 8 heures de vol, ça commence à couler de l'eau, ça salit les aéroports, ça donne une très très mauvaise impression. Donc, il y a des choses qui sont faites. Il existe une politique. Le ministre qui est venu après, notamment le ministre Julien Paluku, que je salue, il a développé le document de stratégie des politiques que nous avions initié. Ils l'ont complété avec les éléments d'autres secteurs. Ce que ça exige dans les secteurs de l'électricité, dans les secteurs de route, dans les secteurs des infrastructures. Cette politique existe, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, je n'ai plus les chiffres qu'ils ont estimés. Maintenant de ce qu'il faut pour... Il y a des investissements qui doivent être faits par l'État congolais, d'autres par les privés, et c'est ce qui freine un peu la mise en œuvre de cette politique, parce qu'il y a des éléments de la politique industrielle qui dépendent des autres secteurs, notamment l'accès à l'électricité. Vous ne pouvez pas développer l'industrie. Vous voyez, même l'industrie minière aujourd'hui, on importe de l'électricité de la Zambie. Il y a des industries minières qui ont dû construire leurs propres barrages pour pouvoir développer leurs activités, parce que nous avons un déficit en électricité. Donc, maman Georgette, la politique existe. Au niveau des documents, si vous allez sur Internet, vous demandez, vous tapez politique industrielle, le document de stratégie des politiques industrielles, il y a la CEPI, la cellule d'études, qui est devenue le bureau national d'études, je crois, de promotion industrielle. Vous pouvez trouver ces documents-là avec les différentes filières et l'évaluation des coûts que ça exige. Mais l'application exige beaucoup de moyens. Il y a des choses qui se font petit à petit, mais pas à la hauteur des défis et des ambitions de notre pays.
Merci beaucoup, M. Chimo. Écoutons encore Joseph Desmarie.
Bonjour, Bob. Bonjour, très cher papa. Et merci beaucoup pour cette très belle émission. Moi, la question que je me suis toujours posée du jour au jour, c'est que maintenant que nous avons congolisé nos industries, qu'est-ce qui a changé par rapport à la zaïrianisation des industries par le feu Mobutu? Parce qu'il faut quand même se dire, nous devons quand même nous dire des vérités. Quel a été le souci primordial du vocable zaïrianisation de l'industrie selon le feu Mobutu? Est-ce que ce n'était pas justement de pouvoir rompre complètement avec tout ce qui était à consonance occidentale? Je donne l'exemple, la colonisation de l'industrie congolaise par les colonisateurs. Mais cette colonisation-là, c'est ça justement que nous on refusait à l'époque, bon, que nos pères refusaient, et ça devrait être zaïrianisé. Par le changement, par exemple, de la monnaie, franc congolais en monnaie Zaïre. même si malheureusement cela nous a amené au pillage, à la corruption et à la détériorisation à la détériorisation de l'industrie. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés à la case du départ, c'est-à-dire au franc congolais. Qu'est-ce qui a changé dans l'économie de nos industries? N'est-ce pas qu'on continue à constater toujours la corruption qui devient encore pire? Bref, est-ce qu'aujourd'hui, n'avons-nous pas besoin de l'industrie mixte? Moi, j'aime bien que nous puissions avoir une sorte d'industrie mixte, c'est-à-dire l'industrie à connotation occidentale et congolaise, ou une économie mixte. Nous avons besoin de blancs quand même dans nos entreprises. Hein? Nous, on s'est dit, bon, avec Mobutu, bon, authenticité, il faut chasser tous les blancs. Avant même d'ailleurs la zarianisation, avec l'indépendance, on a chassé tous les blancs, alors que nous n'étions pas encore mûrs sur le plan économique, très cher papa. Merci, je m'arrête d'abord là.
Merci beaucoup, Joseph Desmarie, pour la pertinence de vos questionnements. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez si bien dit vous-même, les soucis de Mobutu à l'époque, en faisant la zarianisation, étaient de créer et développer l'entrepreneuriat local des Congolais, mais la manière de le faire n'était pas bonne. On a donné les entreprises à des personnes non avertis, non outillés. C'était le clientélisme, c'était plus des politiques qui ont pris des fermes, qui ont pris des entreprises commerciales, sans avoir une expérience ni une expertise. Si on avait, moi je me disais toujours à l'époque, je venais de commencer à travailler comme jeune universitaire au commerce extérieur, nous étions un peu dans les sillages des ministres qui se sont occupés du secteur, le professeur Ndongala au commerce, Namui Simakoy à l'économie. C'était donc, si la motivation était bonne, l'application était mauvaise. C'est ce qui est le cas souvent de nos décisions. Et ce qui fait que si on avait confié ces affaires-là à des personnes qui faisaient profession de commerçants, qui étaient dans les affaires, hein, comme à l'époque, il y avait les Kisombe, les Touluka, les Olela, et d'autres, même de Papa Kindwelo, qui était encore jeune, mais qui était dans les affaires, qui avait le sens des affaires, qui connaissait comment on gère les entreprises, on n'aurait pas connu les fiascos qu'on a connus. Mais au contraire, quand on arrachait des choses à des Portugais, les Portugais faisaient vivre la relation ville-campagne. Ils étaient installés dans tous nos villages. C'est eux qui faisaient, qui entretenaient, qui rachetaient des produits agricoles et ramenaient des produits manufacturés à l'arrière-pays et entretenaient les routes. Mais on a fait cette cassure-là et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à vivre les effets néfastes de ces mesures-là. Donc, et aujourd'hui, nous n'avons pas pu, vous parlez de congoliser l'industrie locale, nous avons très peu d'hommes d'affaires, très peu d'hommes d'affaires congolais, en tout cas pas dans l'industrie, hein, pas dans l'industrie, je ne sais pas si on peut en compter deux ou trois. J'ai cité Lydia tout à l'heure, je ne sais pas si je peux citer deux ou trois noms. La plupart sont dans les commerces, dans la spéculation, dans l'achat et vente. Donc, nous n'avons même plus de banques, voilà. Nous n'avons même plus de banques congolaises. Il y avait, à l'époque, le Colo, il y avait Kindwelo. Maintenant, ce sont les Kenyans, les Ghanéens, les Libanais qui ont des banques ici. Je ne suis pas contre eux, mais je déplore le fait que nous-mêmes, nous n'avons plus de capital congolais dans des secteurs aussi essentiels, stratégiques que la banque. Donc, aujourd'hui, avec la politique qui est initiée dans les domaines des PME et de l'entrepreneuriat, il y a vraiment un besoin de pousser à la création d'un entrepreneuriat national pour qu'il y ait des Congolais comme le gouvernement va annoncer, voulait créer des millionnaires congolais. Il nous faut des millionnaires congolais parce que tous les étrangers qui investissent ici, ce qu'ils gagnent, ils les rapatrient chez eux. Et c'est le pays qui nous avons des problèmes. Nous avons suffisamment des devises parce qu'une partie des devises et qui est produite par ces entreprises étrangères est expatriée ou bien est gardée dans leur pays respectif. Voilà ce que je peux vous répondre. Il faut améliorer le climat des affaires, ça c'est un élément très important, et avoir des politiques d'incitation, de soutien aux entrepreneurs nationaux pour qu'ils puissent développer vraiment une classe, ce qu'on appelle une classe moyenne, une classe des hommes d'affaires congolais qui doivent investir dans les pays et garder les bénéfices, comme des gens comme Dangote au Nigeria, qui sont dans la raffinerie de pétrole aujourd'hui. Et nous sommes encore très loin de cela. Merci, Joseph Desmarais.
Voilà, bonjour Monsieur Simon, bonjour Bob, bravo pour cette émission et cette initiative. Monsieur Simon, quel est le rôle des entreprises privées dans l'impulsion du développement industriel? C'est Gédéon Ndolila depuis Bukavu. Je pense que ça, vous avez écrit BKV dans Bukavu.
Merci à notre frère Ndolila. Quel est le rôle de l'entreprise privée? L'entreprise a pour rôle la création des richesses, la création, la diffusion des richesses et la création des emplois. Une entreprise produit des richesses, distribue des richesses, crée des emplois et par ces faits même-là, contribue au développement du pays. Parce que c'est grâce à la croissance, la richesse d'un pays est faite par la sommation des différentes productions, de ces différentes unités de production. Chaque entreprise, en produisant sa part, s'ajoute à la part des autres. Les uns dans l'agriculture, les autres dans la transformation, c'est-à-dire l'industrie, les autres dans les services comme les banques, les assurances, les transports et autres. Et tout ça, mis ensemble, ça contribue au revenu national, à la richesse nationale. L'État a pour première mission d'organiser, d'encadrer, de créer un cadre et politique, et économique et social favorable au développement de l'entreprise privée. Et l'entreprise privée, elle a vraiment la mission de créer des richesses et de créer des emplois. C'est pour ça que encourager les entreprises en mettant en place un climat des affaires qui permet aux entreprises de se développer, c'est favoriser aussi le développement du pays. Parce que ce sont ces entreprises qui engagent des gens aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment d'entreprises. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui terminent, qui n'ont pas de débouchés. Et ceci est une source de frustration et de blocage au plan social et même sécuritaire.
Voilà. Merci beaucoup, M. Simon. Nous allons nous arrêter là parce qu'il y a un autre programme qui va intervenir. Quoi retenir ces chapitres ou ces numéros?
Quoi retenir? Nous avons fait la rétrospective. Nous voyons d'où nous venons. Nous étions un pays, en tout cas, qui était bien lancé sur le plan du développement industriel. C'était le pays d'Afrique noire le plus développé. Nous étions même plus avancés que des pays comme la Chine, au même niveau, comme on a toujours dit, avec la Corée, le Canada, l'Afrique du Sud. Nous avons régressé pour plusieurs raisons. Et à partir de ces raisons-là, notamment tous les mauvaises politiques, la mauvaise gouvernance, les conflits, les armées récurrentes, les pillages, les mauvaises décisions sur les plans des politiques publiques comme les organisations et la radicalisation. Je vous rappelle que la radicalisation avait même confisqué les affaires appartenant aux Congolais, comme les Moleka, les Lito, les Kindwelo, les Yaya Toulouka et autres. Et ce qui fait, c'est que ça a créé un mauvais climat, une méfiance même des opérateurs économiques, même nationaux, dans leur propre pays. Donc, nous, pour l'avenir, il y a des mesures, il y a une politique, un document de politique et des stratégies industrielles qui a été mis en place. Mais comme disait Mme Georgette, il faut encore qu'il soit mis en place, ce qui suppose la mobilisation des ressources. Il faut que suppose un climat des affaires qui soit favorable aux investissements privés, une formation technique, professionnelle et même managériale efficace pour doter les pays d'un capital humain qui puisse soutenir l'industrialisation, sans compter les infrastructures. Infrastructures des transports, infrastructures énergétiques, ce sont les deux mamelles qui soutiennent aussi le développement industriel. Merci beaucoup à nos auditeurs qui nous ont suivis et ceux qui sont intervenus comme ceux qui ne sont pas intervenus. Je salue la sœur Ernestine et mes condoléances à la congrégation des sœurs de Saint-Vincent de Paul qui ont perdu leur consœur, et à tous nos auditeurs de partout. Salutations, je vous rappelle mon numéro, le 081 812 87 65. Un numéro WhatsApp, vous pouvez aussi écrire pour poursuivre les échanges hors micro.
Voilà, merci beaucoup à vous, merci à tout le monde et merci à Cédric Follo qui a assuré la technique de cette émission. Portez-vous bien et retrouvez cette émission sur notre site web www.radiomaria.cd et surtout la rediffusion vendredi à 2h. Au revoir.
Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission.